n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Comme tous les jours, vous nous parlez de philosophie en lien avec une actualité, mais je crois qu'aujourd'hui vous n'avez pas la conscience tranquille, pour reprendre des termes sartriens.
Complètement, je suis impardonnable, ce n'est plus une actualité, je suis passée à côté d'un anniversaire, alors pas celui de David Bowie, je vous en ai parlé hier.
Ouais.
Voilà, mais celui de Benjamin Constant, le 25 octobre 2017.
Ah oui, en effet, ça fait quelques semaines déjà.
On fêtait les 250 ans de sa naissance, alors pourquoi un tel oubli de ma part? Pourquoi aussi si peu d'événements autour de cette date, alors qu'elle fait partie de nos commémorations nationales? Alors il faut quand même souligner une nouvelle édition de ces journaux intimes et du cahier rouge aux éditions Gallimard, et un colloque qui a eu lieu en novembre dernier à l'ENS de Lyon. Mais quand même, pourquoi si peu? Pourquoi ne pas plus parler de ses principes politiques, comme l'initiative et la responsabilité, de son concept, entendu dans la bouche même d'Emmanuel Macron lors de ses vœux aux Françaises et Français de l'esprit de conquête, ou encore du tournant qu'il a marqué dans l'écriture de l'intime avec ses journaux.
6 janvier 1803. Je me sens dans une de ces crises du cœur et de l'imagination qui ont plus d'une fois bouleversé toute mon existence, brisé toutes mes relations, qui m'ont transporté dans un monde nouveau où il ne me restait de celui que j'avais quitté que quelques souvenirs assez effacés mais plutôt tristes. Des ennemis qui nécessitaient des explications fatigantes, mais en général un vif sentiment de délivrance et la conviction que j'avais bien fait en changeant de plan de vie.
Dans l'essai passionnant que le théoricien littéraire Zetan Todorov lui consacre à la fin des années 90, Benjamin Constant, la passion démocratique, est souligné dans l'introduction la dimension insaisissable de son œuvre. Et ce pourrait être une première réponse à cet oubli du philosophe, mais aussi écrivain et homme politique républicain et libéral. De l'inconstance de Constant, pourrait-on dire, Todorov se demande d'entrée comment lire Constant. Son œuvre a-t-elle une unité? De la question de l'usurpation à son approche psychologique des misères du cœur humain, en passant par l'engagement politique et ses thèses sur la religion, comment donc embrasser la pluralité des domaines et des registres qu'il a pratiqués? Mais il y a plus, et c'est une deuxième réponse que l'on pourrait donner à cet oubli. La pluralité de cette œuvre s'ancre dans le mouvement de l'histoire, de la Révolution et de la Restauration, et de celle de ses relations instables ou autoritaires, en tout cas passionnées. Je pense ici à Germaine de Staël, qui avec son groupe de Copé aurait exercé à son égard un véritable despotisme, je dis bien aurait, d'où cette échappée romanesque que s'est offert lui-même Constant, ce chef-d'œuvre de la littérature, paru en 1816, Adolphe.
Eleanor craignait, en se montrant inflexible, de voir se renouveler des imprudences qui l'alarmaient pour elle et pour moi. L'idée de rompre n'approchait plus de son cœur. Elle consentit à me recevoir quelquefois seule. Alors se modifièrent rapidement les règles sévères qu'elle m'avait prescrites. Elle me permit de lui peindre mon amour. Elle se familiarisa par degrés avec ce langage. Bientôt elle m'avoua qu'elle m'aimait.
Inconstance de Constant, mais aussi inconsistance apparemment face à Germaine de Staël. Les mots sont durs pour comprendre l'oubli de ce penseur, mais c'est que l'on s'en tient encore et toujours à sa vie, dont il a fait certes son œuvre, dont il a fait le terrain de son exploration avec ses journaux et ses écrits, que l'on réduit d'ailleurs trop vite à des autobiographies, mais c'est plutôt sur le plan de la vie plus générale, qu'elle soit intime ou publique, qu'elle soit inconstante et même parfois inconsistante de chaque individu, qu'il faudrait se pencher grâce à Constant. Dans son discours de 1819, de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, s'opposant au contrat social de Rousseau qui aliène chacun au corps collectif, Constant, lui, revendique l'indépendance individuelle des temps modernes. Perdu dans la multitude, dit-il, l'individu n'aperçoit presque jamais l'influence qu'il exerce, et face à cette perte des jouissances collectives, eh bien autant mettre l'accent sur nos jouissances privées. Comment alors préserver cet espace intime? Quel en est le ressort? Quelles en sont les limites et les contradictions? Comment le protéger au sein même d'une société?
Le principe moral que dire la vérité est un devoir, s'il était pris d'une manière absolue et isolée, rendrait toute société impossible. Nous en avons la preuve dans les conséquences très directes qu'a tiré de ce principe un philosophe allemand, qui va jusqu'à prétendre qu'envers des assassins qui vous demanderaient si votre ami qu'ils poursuivent n'est pas réfugié dans votre maison, le mensonge serait un crime. Ce principe isolé est inapplicable. Il détruirait la société.
Du règne de l'intérêt à la logique du désir, on doit à Benjamin Constant cette lucidité sur les transformations politiques et anthropologiques de la modernité, et son courage aussi à affronter Kant et son exigence de vérité pour y préférer l'importance des apparences et du mensonge. Car c'est ici que se dégage la constance de Constant, dans cet attachement à la fragilité, inconsistance, diront les mauvaises langues, de chaque existence et dans ses trouvailles pour les préserver et lui ne pas les oublier.
Merci Géraldine, avez-vous des lectures à nous recommander ?
Alors je recommande donc du coup de Zetan Todorov, Benjamin Constant, La passion démocratique que l'on trouve en livre de poche, en bibliothèque, et puis bien sûr les écrits politiques de Benjamin Constant en folio essai.
C'est noté, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.